France Culture.
Ouais. Salut Chantal, c'est nous.
C'est au quatrième.
Ok.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. On s'est
croisés. Oui, oui. Antoine et Guy Fillon, à pied. Salut ma belle.
Maison Latour, l'amour
d'accord.
Et la vie d'une femme.
Ah, oui, ça,
Antoine Couder, Diffie Marielle.
Salut ma belle. Mais là, on vient de se faire une petite pause et on t'attendait pour repartir.
Eh ben, j'arrive pile à l'heure.
Tu viens juste et pour...
Ah, mais non, j'arrive pile à l'heure.
C'est moi qu'on papote dans la cuisine, puisque c'est
là
pour
travailler.
Oui, oui, oui.
Ah, bon. Cela dit, alors, il est temps.
Non, là, les deux. Ah, bon. Dans votre mail, il y avait l'idée de goûter.
Goûter, ben voilà. Il faut tout prendre au goût.
Bon, je vous redis. En fait, ce qu'on, est,
oui.
Ouais, ce qu'on est en train de faire.
Que t'es venu foutre, ouais. C'est pas simplement boire le thé avec ta copine.
Tu veux que je coupe, Chantal ?
Oui, prends.
En fait, l'expérience commence dans cet appartement.
C'est un lieu extrêmement... Tu sens une histoire, quoi. On est dans un lieu de... Il y a beaucoup de gens qui ont passé, il s'est passé des trucs, quoi. C'est pas un appartement neutre du tout. Et je pense que les gens se sentent bien ici. C'est
un typique appartement grand bourgeois. L'immeuble doit dater de la fin du 19e, début 20e, je ne sais pas trop.
Il y a beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de carreaux, il y a beaucoup de...
Avec des plafonds à rosaces et à moulures.
Ça craque, le parquet craque.
Des beaux volumes en général, comme tous ces appartements anciens.
Il y a une atmosphère de résonance quand même, ça résonne pas mal de partout.
Un lieu qui a une acoustique, hein, parce que moi je l'entends l'acoustique. Hein,
en fait, il est assez symptomatique de eux, cet appartement. C'est-à-dire qu'il y a un immense truc pour accueillir des gens, une immense salle à manger et des toutes petites chambres avec une toute petite salle de bain un peu au bout.
Ah, moi je suis toujours quelqu'un qui entend s'il y a trop de réverbération, si oui. C'est sec. Là, c'est une certaine plénitude, l'équilibre. Donc d'avoir l'intime et en même temps de se dire ça va se déployer.
Ça, c'est un bruit normal de la rue d'antan.
Est-ce que d'emblée l'appartement t'a plu ou pas?
Ce que j'avais raconté, ouais. C'était que en fait, c'était pour moi, c'était trop lié à la famille Latour. Oui. J'avais l'impression d'arriver chez les Latour, tu vois. Et du coup, je connaissais très bien puisque j'étais déjà venue avant. J'ai eu un petit temps d'adaptation à me l'approprier, mais c'est grâce au piano. Moi, en général, je m'approprie les endroits, ça les transforme. Dès qu'il y a un piano, ça met un petit, tu vois, un aspect plus directement lié à moi, quoi, à la musique.
Et c'est quoi le sujet de cette émission? On est dans des sujets complètement rien.
J'étais déjà venu avec Diffie Mariani pour enregistrer Bruno Latour. Sa vie, son œuvre, le projet qu'il menait avec sa femme dans la Haute-Vienne, un projet de création partagée de cahiers de doléances réalisé avec les habitants du CRU. C'était passionnant, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était Chantal, que je connaissais par ailleurs, avec qui je partage toujours beaucoup de choses d'importance. Cette façon de se retrouver à côté de très grands hommes déjà, et surtout le goût du son et des choses enregistrées, la musique. Bruno, c'était les mots, les concepts. Bruno, c'était avant tout le mari de Chantal.
Ma chérie, on est supposé...
Alors, on fait quoi maintenant ?
Faire tous les deux.
Voilà, 50 ans. 50
raconter
ans.
Notre vie depuis 50 ans.
Ok, chouette.
On s'est rencontrés. Là. On était là, dans cette salle.
C'était ici.
Et on a dansé et j'ai marché
sur ses pieds. Ah oui, 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 on était ici.
J'ai marché sur ses pieds.
Oui, oui, on était... Ah non, c'est ça qui est très drôle. On était rue d'Anton parce que son frère et lui ont fait une fête, une boum. Et moi, j'étais invitée avec mon frère. Et en partant d'ici, nous allions mener une vie ensemble.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 septembre 2012. Bruno Latour, invité des matins de France Culture de 7h40 à 9h05.
Bon philosophe pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, mm-hmm. Ça peut changer.
Tout à l'heure en anthropologie peut-être.
Tout à l'heure, et demain ?
Sociologue, c'est mon titre officiel à Sciences Po. Ouais.
Alors il y a...
J'étais un intellectuel, au sens le plus classique du terme, mais j'ai décidé, il y a 51 ans, de suivre tout ce que ferait Chantal.
Elle est au courant ?
Oui, c'était évident, c'est pour ça que je l'ai épousée. Enfin, je l'ai épousée, c'est tout à fait un peu excessif, et c'est un peu elle qui m'a épousée, mais la décision prise, c'était de dire, là, il y a un fil à plomb. Non, mais je suis complètement sérieux. J'ai fait, par exemple, des tas d'exercices qui sont complètement dépendants des cours de chant que prenait Chantal. L'expérience de la pratique de Chantal, c'est ce que j'ai décidé, j'ai quand même décidé ça un peu quand même, il y a 50 ans, que c'était ça qui allait éviter de me sortir, disons, de tous les défauts de la vie intellectuelle. Et j'ai parfaitement réussi mon coup.
Non, mais je pense qu'on était l'un et l'autre dans des mondes très, très différents. Bruno, il était dans les mots, l'écriture énormément, la philosophie, tu vois. Et moi, j'étais dans un monde beaucoup plus lié au mouvement, au son, à la musique. Et j'avais des grandes méfiances vis-à-vis de tout ce qui contenait de sens, ce que moi, j'appelais le baratin. J'avais grande méfiance des intellectuels, des gens qui écrivaient. C'était une période où on était quand même très anti-intello. Et on était plutôt pour expérimenter des choses, pour le corps, pour la réalité, la conscience du réel, etc. Donc, et moi, j'étais j'étais une mauvaise élève. J'ai eu un parcours scolaire. Toi, j'étais virée du lycée. J'ai jamais fait d'études. J'ai pas de bac. J'ai jamais fait d'études supérieures, etc. Donc, j'étais très allergique.
C'est ça qui m'a sauvé. Oui, mais c'est ça qui m'a sauvé. Je me suis dit, c'est ça la bonne ligne. C'est là où il faut aller. Et c'est précisément cette allergie qui était parfois un peu déplaisante.
Ah oui.
Elle s'intéressait pas du tout ni à mes collègues. Généralement des Anglais boutonneux et ennuyeux qui
des sociologues américains barbus, tu vois le genre.
Ça a toujours été ma ligne.
Abat leur bourgeois et leur patriarcat, abat l'ordre hétéro et leur capitalo.
Abat l'ordre bourgeois et leur patriarcat, abat l'ordre hétéro et leur capitalo.
Nous, donc en 70, on était quand même dans une période où il y avait un courant collectif qui était en dehors des partis. Et en même temps, on travaillait beaucoup sur faire des journaux, écrire tous ensemble, sortir des réseaux habituels de diffusion de l'information, les radios libres ensuite. Enfin, il y avait tout un myriade de petits systèmes d'expression. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Quand on distribuait Mathusalem dans les manifestations, les mecs, ils nous regardaient comme des andouilles, tu vois. Qu'est-ce qu'elles foutent, ces filles, à parler des vieux, de la ménopause, du temps de travail, tout ça. C'était pas du tout des sujets politiques, au sens où c'était pas les sujets des partis politiques, ni des syndicats.
on était dans une période où le collectif, et moi j'ai toujours senti que c'était ensemble qu'on pouvait faire les choses, c'était jamais à titre moi individuel. Ma génération a été extraordinairement méfiante et très critique des hommes, consciente qu'il y avait énormément de choses qui étaient liées à une vieille histoire de domination, avec toute une histoire politique qui était construite pour que les femmes soient dominées sous le boisseau, quoi. C'est pas des hommes individuellement, pris individuellement, c'est toute une organisation collective qui est faite pour que les hommes aient le pouvoir sur tous les plans. Et c'est aussi parce qu'il fallait collectivement se rapprocher et parler et analyser ce qui se passait qu'on pouvait dépasser ça et passer à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que dans les années 70, on a énormément dénoncé.
Et toi, comment tu as vécu ce féminisme qui a constitué un peu quand même le parcours de plein de femmes des années 70-80 et notamment de Chantal, enfin, comment tu...
Mal, je l'ai vécu mal, mais en suivant ma ligne.
À savoir
C'est dur, mais il faut continuer à maintenir cette idée que c'est elle qui a raison et pas moi. Fil à plomb.
C'est donc de l'ordre de l'acrobatie, enfin d'un rapport à la gravité.
Ouais.
Ce qui n'était pas forcément, je pense, toujours facile pour Bruno et ses copains, parce que nous, à l'époque, on était des féministes anti-intello. Hein, je me rappelle les intellectuels qui étaient évidemment des hommes la plupart du temps, nous paraissaient vraiment des gens qu'il fallait attaquer, quoi.
Je voudrais poser une question, parce que j'imagine la jeune femme que tu étais, comment tu l'as décrite, et comment tu as choisi cet homme-là, alors ?
Ah oui. Ça, c'est compliqué comme question. Oui, c'est une très bonne question. C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans les histoires d'amour, tu sais. C'est pas des arguments, c'est pas sur une liste de choses que tu retrouves, que tu choisis telle personne. Pas du tout ça. Hein. C'est des... je sais pas, je pense qu'on avait en commun le partage du... Je sais pas, j'allais dire du temps, mais le partage de l'instant, le partage de choses importantes, le partage de... Ouais, d'avoir partager des choses extraordinaires, mais pas sous les mêmes modes. Bruno, c'était sur le mode intellectuel et moi, j'étais sur le mode sonore, corporel, humain. Et Bruno était beaucoup plus dans l'observation et la réflexion. Mais je sais pas si on choisit aussi des gens qui vous sont pas... qui sont pas identiques, on choisit des choses. Et puis je pense aussi que nos névroses ne se sont pas amplifiées l'une par l'autre, elles se sont apaisées. Bruno et moi, on était chacun dans notre monde et extrêmement indépendants et on se respectait énormément nos univers. On avait l'impression que on était chacun dans notre monde et que c'était très très bien comme ça. Et on s'étonnait beaucoup l'un de l'autre et on s'amusait énormément l'un de l'autre parce qu'on était complètement en dehors des clous. On n'était pas dans les mêmes clous. Quoi.
Ah bon ?
Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? C'est au quatrième. C'est une fille qui vient rapporter des clés. Heureusement, je l'avais oublié.
Ça va, c'est pas trop long.
C'est pas trop haut.
Non, ça va. Prends l'ascenseur.
Mais non, ça va. Salut. Mais on se connaît pas, hein, toutes les deux.
On se connaît pas.
Et tu habites avec...
Je suis la colocataire de Laetitia.
D'accord, voilà. Écoute, t'es adorable de me rapporter les clés. Merci. Et puis, elle revient combien ?
Elle revient début février. je crois.
La Californie, quand on y est arrivé, c'était en 60... Attends, on est arrivé en 75 en Californie, à San Diego. Et moi, je n'avais pas du tout conscience de qu'est-ce que ça voulait dire être en Californie. Je n'avais pas beaucoup lu ce qui s'y passait, etc. Mais en atterrissant là-bas, c'est vrai que je me suis... D'abord, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller dans le centre... le Women's Center, qui était en plein cœur de San Diego. Et je m'y suis précipitée dès les premiers jours. Et donc ça m'a permis aussi de me repérer et de comprendre un peu qu'est-ce que j'allais foutre là-bas. Parce qu'évidemment, moi, je n'avais pas de boulot. Et Bruno était occupé toute la journée avec ses recherches en laboratoire. Et moi, il a fallu que je m'adapte. Et donc, j'ai été dans les groupes de femmes dans ce Women's Center. Je me rappelle très bien de la tête des filles qui étaient là-bas. Et donc, j'ai beaucoup, dès le début, participé à des Raising Consciousness. C'était les groupes de prise de conscience qu'on faisait entre femmes. Et ce que j'ai découvert sur la vie politique, grâce aux vieux et aux femmes, c'était à la fois ce travail autour le community organizing, qui était le travail de comment on situe, comment on comprend et comment on utilise les réseaux pour faire un travail collectif et le rendre public. Donc ça a été pour moi absolument génial. C'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie après. Organiser la communauté, c'est quand même ce qui m'intéresse. Et l'autre truc qui m'avait énormément enthousiasmée, c'était tout ce qui était ce qu'on appelait alternative. Et il y avait tout qui était alternative, les community cliniques qui étaient alternatives, les centers for women qui étaient alternatives. Enfin, le mot alternative, c'est un mot qui m'a parlé aussi, c'est-à-dire qu'on invente des choses en dehors de la ligne. Et ça, je pense que c'est très très lié à l'époque californienne de ce moment-là. Et ça m'a marqué pour le restant de ma vie. Il y avait une multiplicité de groupes, de mouvements, de prises de parole, d'expressions collectives, de ruissellement de groupes et de pratiques ensemble qui n'étaient absolument pas organisées par des organisations, des grosses organisations. C'était les gens au niveau local qui faisaient leur truc ensemble parce qu'ils avaient des problèmes ou des choses à faire connaître. Et du coup, ils trouvaient les moyens de s'associer pour en faire des expressions et des modes d'agir.
C'est quand même énorme de réaliser que les outils politiques utilisés en France dans les années 90, dans les groupes d'autosupport d'usagers de drogue, chez les malades du sida, tout ça vient tout droit de la Californie des années 70. Et que ce sont des gens comme Chantal qui les ont rapportés dans leur bagage. Est-ce qu'elle imagine, elle, que chez ACT UP en 95, on faisait à peu près la même chose qu'à San Diego en 1970? Non, pas sûr.
Allez, on commence.
Voilà. On commence.
Encore, attends.
Une chanson. Gulosam, il y a un Gulosam, dans Makam Huzam, et je vais le chanter avec une gazelle, en fait une improvisation de voix.
Comment ?
Vous nous dites un mot de l'histoire.
Un mot de l'histoire ?
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ah oui, qu'est-ce que ça raconte ? Si j'étais un rose, ou soit j'étais un, je sais pas, sumbule, c'est quoi, une sorte de fleur, est-ce que tu me sentirais?
Est-ce que tu me sentirais?
Oui, est-ce que tu me sentirais? Voilà, maintenant on va passer. Premier morceau, Segar Türkü Yeminimin Uçları.
dans ces séances où on se retrouvait, non pas régulièrement, c'était quelque chose d'assez irrégulier, mais ça se passait assez souvent. Souvent parce qu'il y avait quelqu'un que Bruno connaissait bien, ou estimait, ou était curieux de rencontrer, qui était de passage, et donc il disait « Venez, il y a un tel qui vient tel jour, on va discuter, etc. etc. » C'était toujours un mélange de discussions autour d'un thème ou du travail très libre, très informel, plus ou moins vif ou animé selon les interlocuteurs qui étaient là. Et puis d'artistes, de musiciens en particulier. Donc on discutait, on mangeait, on buvait et on écoutait les musiciens.
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları ah çıkamam yokuşları o yâre selam edin yedi dağın kuşları ah
Chantal et Bruno se couchaient très tôt et donc éjectaient tout le monde, ou essayaient d'éjecter tout le monde à partir de 9h en général. Mais le rituel était bien connu de la plupart des habitués. On venait vers 6h. On était souvent une dizaine, une quinzaine, peut-être plus. Ça discutait, tout le monde intervenait, plus ou moins. C'était assez intimidant, cela dit, parce que le niveau des discussions n'était pas médiocre. De ce point de vue-là, ça ressemblait un peu à un salon 18e, par la qualité, l'acuité, le côté très cosmopolite des discussions. Mais en même temps, les gens ne se prenaient pas très au sérieux, enfin, parfois oui, mais pas toujours. Et donc on rigolait beaucoup aussi, on riait beaucoup. Et Chantal était très bonne aussi pour percer... comme on perce un ballon pour percer les égouts qui menaçaient de déborder. Et donc c'était un mélange, une réminiscence des salons 18e, mais aussi avec un côté fin de siècle, tout petit peu suranné à cause du mélange avec la musique, l'appartement lui-même, un grand appartement bourgeois, mais qui du coup imposait un peu ça. Son formatage d'époque, si j'ose dire, au séance. Et tout le monde en était conscient, on en riait un peu aussi, le côté un peu temps retrouvé de ces séances.
Les fêtes, je ne sais pas à quel point vous voulez que ça devienne personnel, mais le truc, c'est que mes parents, ils me sortaient un peu quand il y avait des fêtes. Donc il fallait ou, quand c'était ma mère, que je joue de la musique et que je joue des chansons et de la guitare et des trucs comme ça, ou, quand mon père me présentait à ses amis, il fallait à chaque fois, c'était pas une campagne politique, mais il fallait que je fasse une petite blague, que je sois un peu marrant et qu'après, il fallait que je retourne dans mes appartements. Donc en fait, c'était un peu... Moi, j'en ai pas un souvenir. C'était plutôt le moment où on dit, mais regardez, le petit sait jouer du violon, quoi. Vous voyez, c'est un peu genre le moment où il faut un peu faire le malin, quoi. Et après, se tirer assez rapidement. Le truc, c'est que moi, j'aimais bien les trucs d'enfant, d'ado. J'aimais bien les films pas terribles, j'aimais bien la musique de pop, j'aimais bien les trucs. Et eux, ils étaient pas du tout là-dedans. Et ils trouvaient qu'il fallait s'intéresser qu'à des trucs hyper intéressants. Enfin. Très bien vu culturellement, quoi. Parce que eux, c'est ça leur âme, quoi. Ils sont hyper passionnés par ça. Mais moi, j'étais pas trop là-dedans. Et du coup, il y avait un petit rift de... en gros, que moi, je leur envoyais, de vous mépriser un peu les trucs que j'aime. Moi, je méprise un peu les trucs que vous aimez. Donc, quand vous faites des trucs, du haut de mes 13 ans, j'ai un petit air supérieur, genre, oui, bah, amusez-vous, mais moi, ça me concerne pas. Et donc, j'ai toujours été un peu... réticent intégrer leur monde.
Mais globalement, c'était réussi parce que c'était amical. C'était, par rapport à un séminaire, vous auriez que des collègues, bien, ça force un ton, tandis que là, ça permet qu'on passe d'une blague à un truc un peu intime, à un moment plus sérieux. Bon, c'est toujours, c'est jamais très formel, mais des fois c'est des concerts aussi. Hein. C'est Chantal qui apportait des musiciens. Donc on écoutait.
Bruno et Chantal avaient cette qualité d'être des attracteurs et adoraient être entourés par. Tantôt des activistes, tantôt des intellectuels, tantôt des musiciens. Le mariage entre les scientifiques et les artistes est maintenant une affaire. C'est devenu assez commun. Le monde scientifique s'offrait évidemment comme un lieu où il y avait à la fois un travail d'imagination très fort de la part des scientifiques, un appel vers des possibilités de traduction ou de transduction, si vous voulez, d'un registre à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui intéressait évidemment énormément Bruno, les questions de changement de registre. Et c'est une vieille habitude aussi de travailler en groupe, de travailler avec autrui, sous des formes un peu différentes. Bruno, évidemment, par la force des choses avec ses sujets, si j'ose dire. Et Chantal, parce que très tôt, c'est quelqu'un qui adore l'action collective, la militance et le sentiment de solidarité et de capacité d'action que donne le fait d'être un collectif plutôt que d'être tout seul. Donc tout ça explique un peu le grouillement particulier qui se passait dans ce lieu précis.
De matin.
On va comme ça bas. Voilà. On imagine qu'on est 5 heures du matin.
Ah bah l'idée, moi j'ai toujours eu cette idée des. J'adore les potlucks, c'est-à-dire chacun arrive avec de quoi manger. Et Bruno râlait toujours en disant ça va être désorganisé, tu vas encore faire un truc désorganisé. Et moi je disais, mais non, c'est ça qui est marrant, c'est de voir le bazar et. Qu'est-ce qui arrive sur la table et tu sais pas. Et puis en fait, il y a toujours 4 fois trop à manger. Ta machine qui te fait un gâteau parce qu'elle adore faire des gâteaux. T'as un truc qui achète des saloperies au carrefour du coin.
Demi cacahuètes.
Voilà. Donc il y a toujours, je trouve, une. Moi, j'adore cette impression de bazar. Quoi.
C'est des bonnes franquettes, quoi. C'est la bonne franquette.
Première hallucination. Ah d'accord, ils font des trucs comme ça. Parce que Chantal, toi t'envoies une invitation, tu dis on fait une fête rue Danton, il y aura machin, bidule, les trucs, est-ce que vous voulez venir? Donc oui. Tu me dis est-ce que tu peux prendre ta viole, on aimerait bien de la musique. Oui. Donc tu sais pas dans quoi tu mets les pieds et puis en fait t'arrives, les gens se disent bonjour et puis tout le monde se met en cercle. Ah c'est pas un dîner en fait, tout le monde se met en cercle, tout le monde se présente. Et donc t'es là à côté d'anthropologues, de philosophes, d'étudiants qui font des thèses et donc toi tu demandes qu'est-ce que je fous là quoi. Et en fait non, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au fil du temps tu comprends que tu fais partie d'un... T'as une place en fait, enfin, voilà. Et donc la musique prend le relais et tout le monde écoute ça avec autant d'attention que tout ce qui vient d'être dit et tu ressors et t'as pas compris ce qui t'est arrivé. C'est vraiment... voilà.
Je me souviens de cette dernière réunion où il y avait des plateaux de fromage d'Auvergne, c'est une partie des origines de la famille, des pizzas, des salades, des fruits, des gâteaux apportés par les uns et les autres, et chacun tournicote dans la cuisine, fait réchauffer un truc, met la main à la pâte, on n'est pas dans un lieu de propriétaire installé.
Oui, c'est toujours tranquille, quoi. Il n'y a pas des obstacles, mais bon... Oui, on les prend.
Pourtant, je suis pas si tranquille.
Ah ouais, ça paraît. Et donc il y a tout un travail complètement invisible qui se voit pas. Et puis, puis le jour même, t'es là, et puis on ne sait pas que t'as fait tout ça.
Oui, ça c'est vrai. Ouais.
Ça paraît comme ça.
Non, mais disons qu'il y a un jeu chez moi de, tu vois, cette espèce de travail collectif de on va jouer ensemble quelque chose. C'est vraiment pour moi du jeu. Je le prends pas du tout comme une corvée ou comme un truc sérieux. Pour moi, c'est jamais sérieux, en fait. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est comme exactement le jeu. C'est-à-dire, c'est sérieux et en même temps, on joue. Donc, on va s'amuser à essayer d'être ensemble.
Yollara gitsem, kaçsam bırakır senden uzak yollara gitsem.
Je me souviens de ce concert de Péline et de son mari. En effet, Chantal était en mouvement, Bruno était dans son fauteuil. C'était en mai 2022. Je me souviens de son sourire. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Amusant avec cette pièce que salle à manger qui est juste à côté du salon avec une grande porte double qui s'ouvre dessus qu'on peut ouvrir de temps en temps. Donc on a salon, salle à manger et puis hop en angle au fond là mais avec une grande baie vitrée et avec des fenêtres donc ça devait être avant un salon. Il y a le bureau de Bruno et lui alors les portes sont bien fermées, il n'est pas éclairé et non ça ne fait pas du tout partie de la zone ouverte au grand public. Je me souviens d'une fois où, peut-être parce que la porte était restée entrouverte, je sais pas quoi, on est entré, parce que peut-être on parlait d'un livre, je sais pas quoi, et où Bruno est venu, pas brutalement, mais nettement, faire comprendre que c'était pas du tout un endroit public.
Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, c'est une sacrée tête. Hein. Surtout, faut pas défaire l'ordre des livres. Faut éviter. Ah, c'est amusant. Et c'est rassurant parce que, vous voyez, quand vous voyez un désordre dans une bibliothèque, ce qui est rassurant, c'est qu'on a tendance à raisonner en termes d'ordre, de discipline, et de sentir que. Que Bruno, il mettait les éléments selon un ordre qui lui était complètement personnel. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre, en fait. Il faut parfois faire la photographie de telle manière que l'on garde cette manière, et parfois, peut-être qu'on fait une recherche après sur son travail, de trouver une articulation inattendue par la lecture, et qui vient probablement de sa bibliothèque. Ça, c'est quelque chose de fascinant. Vous voyez, moteur, ça, c'est drôle, ça, moteur. Ah, oui. Mais je pense qu'il s'est trouvé.
Le salon.
Ah oui, d'accord.
Le bureau.
Attends, oh, ça, c'est ça,
la salle à manger. C'est génial, ça.
La recherche de la puissance, moteur. Ah, voilà, c'est comme ça, ça m'intéresse.
Je commence à comprendre comment la pensée circule dans cet appartement, dans cette maison La Tour.
C'est génial, c'est le genre de truc que je cherche.
Comment elle passe de la bibliothèque au piano.
Ça, c'est le genre de livre
porte d'entrée.
Oh là là, ah ouais, d'accord, comment ça fonctionne.
Des mots à la musique, de l'ombre à la lumière.
Là, vous avez l'histoire du 19e siècle avec ces machines à vapeur.
La pièce aime bien cette
peinture. Ah oui, avec le graphisme d'un côté, on a la coupe intérieure, vous imaginez. C'est... C'est immense. Ça, c'est extraordinaire.
Carnet 213, 2016, page 92. Je suis bien obligée d'avouer que j'adore les pompes, les circuits, les tuyaux luisants, les puissants et brillants compresseurs, les valves, les écrans de contrôle, la puissante odeur de pétrole, la formidable violence et l'incroyable astuce d'aller chercher ces ressources dans la terre même. Et même ce petit laboratoire d'analyse si simple qu'il me rappelle celui de la cuverie pendant les vendanges. Ce paysage étrange d'immenses fermes avec les silos à blé, les vaches et partout les conduits de gaz et les jacks de puits de pétrole qui montent et baissent la tête comme de grandes bêtes du désert. Et c'est un désert en effet que ces grandes ondulations sur des centaines de kilomètres avec de temps en temps une ferme entourée de quelques arbres et de grands camions. J'aime même l'incroyable réticulation de législation qui tient chaque goutte de ces puits de pétrole. Tout est calculé, mesuré, pour des raisons de santé et de sûreté, mais aussi parce que le partage des bénéfices et des risques est incroyablement compliqué et dépend de la profondeur des forages, de la multiplicité des produits, gaz, bitume, pétrole, qui sortent tous emmêlés des puits et que la machinerie doit séparer par pesanteur. Filtration. Je crois qu'il y a des schémas à côté de comment ça fonctionne. Vous les avez vus aussi ?
Ah oui, il y a des photos de, il y a des photos de gens qui travaillent là et qui lisent des données.
Donc là, c'est un schéma dans lequel il y a des flèches et des tourbillons et on passe de la rupture cosmos-univers.
Mais comment tu décryptes ?
Il y a un numéro, regarde, 1, 2. D'abord, il y a la rupture cosmos-univers, ensuite, la seconde flèche, elle va vers la guerre froide. Non, elle va vers... C'est pas très clair.
Ouais.
La grande accélération de l'anthropocène, et ensuite il y a une troisième flèche. Je sais pas. Et après il y a une quatrième flèche qui va vers l'hyper-postmodernisme post-humain. Ah, et Bruno Latour, c'est la flèche 3 qui revient vers la Terre peut-être.
Ah, et c'est comme s'il y avait plusieurs options en fait. Il y a repli.
Ouais.
Bruno Latour. Bruno Latour.
Je vois Bruno
Latour. C'est soit le repli, soit Bruno Latour. Hyper post-moderne. Ouais. Vous êtes sûr que c'est Bruno Latour ? C'est rétroaction, réflexion.
Toute l'histoire.
C'est des textes. Mais c'est quoi des textes, ouais, qui lui sont adressés en fait ?
Là, il y a une lettre de Lovelock.
Ok.
Wow.
Mais non.
C'est super. Est-ce que ça c'est... Je pense que c'est Lovelock. C'est James Lovelock ça, hein?
Oui, ça c'est parce que Bruno est allé à son anniversaire, il avait 100 ans.
Ah, wow.
Ça c'est sa maison, ouais. Là c'est à l'intérieur. C'est des choses que Bruno a commencé en 62, donc en 1962. Et qu'il a écrit tous les jours, parce qu'il écrivait tous les jours. Et les derniers sont datés du mois d'août de cette année. Donc ça fait pas mal d'années. Il y a à la fois un journal avec beaucoup de choses concernant l'actualité, ou des photos d'écran, ou des tweets, ou des extraits de journaux, en particulier américains, anglais ou français. Il y a beaucoup de choses sur lui, sur sa maladie pour ce qui concerne les dernières années. Et il y a des petits commentaires, il y a des photos, il y a des dessins. Voilà. Donc c'est vraiment un journal intime.
Mais il a commencé à écrire sur des carnets en 1962, vous disiez.
Mm-hmm.
Depuis ses 15 ans, il a écrit tous les jours.
Mais même avant, il écrivait, mais... Disons que ça a pris une forme plus classique de carnet, je pense.
Et à quel moment il écrivait ? Parce que j'ai l'impression qu'il avait quand même beaucoup de choses dans sa vie. Est-ce que vous participiez à ça aussi ?
Ah, pas du tout, non, ça faisait partie des choses totalement personnelles et évidentes. Mais il écrivait plein de moments de la journée aussi, souvent le matin. 180. Voilà. Peut-être, vas-y, c'est en haut.
Jamais le chemin de l'écriture.
Ouais.
Jamais le chemin de l'écriture n'aurait continué à me mener si, en plus, l'autre décision n'avait été prise de suivre Chantal comme un fil à plomb moral qui continuait la quête de l'expérience du monde et de ce gap toujours maintenu entre les mots sur le carnet et cette expérience. La reprise des mots ne l'intéressait pas, mais donner la direction vers la réalité que rien d'écrit ne devait couvrir, ignorer, peinturlurer, oui. C'était important qu'elle soit indifférente, ironique, méprisante même pendant longtemps à toute expression intellectuelle, en tout cas méfiante pour toute efflorescence du côté des mots. C'est cela qui m'a dirigé, cette méfiance.
Vous en avez pensé quoi quand vous êtes tombé dessus ?
Qu'est-ce que tu dis ?
Vous en avez pensé quoi quand vous êtes tombé sur ce texte ?
Ben, je... De toute façon, pour moi, c'est très, très bouleversant de lire tout ça.
Alors, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que c'était plutôt marrant. C'est que lui, ça le faisait plutôt rire quand on se foutait de sa gueule. Et donc, l'échange, c'était souvent ma mère qui faisait un petit commentaire sarcastique sur ce que disait mon père. Ou qui parlait des potes de mon père en disant oh, « Ils posent aucune question, qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux, ces intellectuels, ils sont vraiment pas intéressants. » Et mon père qui disait bah, « quand même, mais... » La blague, c'était que lui rigolait aux vannes de ma mère. C'était pas vraiment lui qui disait « Franchement, tes trucs de musique, c'est ridicule. » C'était plutôt ma mère qui se foutait de la gueule des choses de mon père. Mais vu que plein d'autres choses dans la vie disaient que ce que mon père faisait, c'était très important, c'était plutôt bien vu, quoi. C'était un peu le fou du roi. Et je pense que ça aidait mon père aussi à se prendre un peu moins au sérieux, quoi. Et du coup, ça lui faisait du bien aussi. Et donc, c'était bien pour tout le monde, quoi. Donc, c'était pas très agressif. Après, au fond, parfois, je sentais que mon père ne jamais être pris au sérieux, ni par sa femme, ni par son fils. Il y a des moments où ça le pesait. Notamment, je me souviens d'une fois, il y a un magazine là, qui était sorti où il y avait écrit « Le penseur qui inspire la planète ». Et je l'avais vu, il était là, et j'ai explosé de rire, parce que c'est beaucoup quand même. Enfin, je veux dire, je sais que c'est un grand penseur et tout, mais moi, c'est plus mon père. Et le penseur qui a, du coup, à chaque fois... Que je lui disais excuse-moi, qu'il était en train de faire autre chose. Je lui disais excuse-moi, t'es en train d'inspirer la planète là ou pas? Tu me dis si je peux te parler ou si tu inspires la planète. Et parfois ça le faisait vraiment rire, mais je pense au fond, il y a des fois, il disait quand même est-ce qu'il y a moyen d'être pris au sérieux dans cette maison quand même? Mais voilà, c'était un peu impassant.
Ça, c'est drôle aussi. Il était très important que Chantal ne s'intéresse aucunement à la vie intellectuelle standard et qu'elle exagère de mille manières son dédain pour les formes universitaires. Ça date de 2018.
Oui, c'est pas
longtemps. Moi, j'ai connu Bruno quand j'avais 9 ans et lui, il avait 10 ans. Parce que sa sœur a épousé mon oncle. Donc je suis allée au mariage de mon oncle et où j'ai rencontré Bruno qui était un petit garçon. Donc et après sa sœur, donc je la voyais en vacances et autres. Et c'est là où elle me parlait toujours de son frère dont elle était très admirative. Et elle me disait très très éblouie que son frère écrivait des romans et tout ça. Et moi je trouvais ça nul, complètement ringard d'écrire des romans. Et moi, j'entendais, il ment, tu vois, le roman, c'est le mensonge. Mais je pense que une des choses aussi de notre lien, c'est aussi basé sur la recherche de vérité, quoi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, Bruno, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet toute sa vie. Et moi, pour moi, ça a toujours été aussi une recherche, c'est-à-dire de ne pas être en dehors de soi-même et pas être dans le faux. Mais c'est aussi lié à l'histoire de ma mère et tout.
Ma mère, elle était dingo, donc elle était ailleurs, donc elle était dans une fiction. Donc la fiction, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus dangereux. Mais j'ai changé au fur et à mesure des âges. C'est une femme qui entend toquer à sa porte. Et c'est son amoureux qui est à la guerre. Et en fait, il revient alors qu'il est mort. Non, c'est un lead extraordinaire de malheur. Wo die Trompeten bleiben. Où est-ce que sonne, d'où ça sonne? Et en fait, elle l'entend parler, mais il n'est plus là. Non, c'est très très beau comme l'idée. Rapport à la musique, pour moi, la musique est tellement profondément, je sais pas comment dire, c'est tellement fort et tellement intense et tellement, moi la musique ça m'a sauvé la vie, tu vois, quand j'étais petite j'écoutais de la musique, je pense que ça m'a permis de survivre, donc la musique elle est totalement une planche de d'existence, quoi. Et du coup, par la parole, là, je suis dans la parole, dada, c'est facile, dada. Mais tu vois, mais chanter, on va arriver dans une zone où là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus, ouais, beaucoup plus intense, beaucoup plus sensible.
Survie, t'emploies des grands mots là.
Ah bah pour moi, survie, oui, je pense. Sans la musique, je suis pas sûre que j'aurais survécu. J'emploie des grands mots, mais c'est...
Tu peux en dire plus.
Est-ce que je... Ouais, je pense que j'étais dans une grande... inquiétude ou dans une grande peur, etc. Parce que j'ai eu des choses difficiles. Mon père est parti quand j'avais 6 mois en faire la guerre, pendant 2 ans et demi. Ma mère était folle, donc j'avais quand même des choses un peu difficiles. Et la musique, pour moi, c'était un moyen d'être seule et d'être quand même enveloppée. Pour moi, je pense que quand t'es petit, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai aujourd'hui, hein, c'est encore plus vrai aujourd'hui d'ailleurs. Ça n'a fait que s'augmenter, cette histoire-là, du son et de la musique comme enveloppe et comme quiétude et comme émerveillement. Enfin, tu vois, on peut dire que depuis petite à maintenant, j'ai 74 ans, ça n'a fait que s'amplifier comme importance. C'est extraordinaire de penser qu'il y a quelque chose qui peut être aussi puissant et que ça ne bouge pas pendant toute ta vie et que ça soit toujours aussi un refuge et un apaisement et un bonheur, quoi. C'est incroyable.
Tu vois, c'est exactement ça. La musique qui nous enveloppe, la musique qui nous protège de l'extérieur, du désastre de l'extérieur. Chantal, tu connais cette phrase du journal d'Anaïs Nin ? Si vous n'écrivez pas en chantant, alors n'écrivez pas.
It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life. The beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation. That was something to see. And my friend told me death is like taking off a tight shoe. And when I stopped looking for me, I was able to find you. Right there where everything is transcendent. I can feel myself opening up, getting closer. No hope is enough. I've stopped hoping. I'm learning to trust. I came to under that red moon. I was completely crushed. Please use me. Please move through me. Please unscrew me. Please loosen me up. Make music with me. Make everything stop. Make noise and make silence with me. Make love. Let me be love. Let me be loving. Let me give love, receive love, and be nothing but love. In love, and for love, and with love. In love, and for love, and with love. Surrender. I do. Surrender. Move through me and feel me get out of the way.
Dormir, c'est dormir. Ah oui, oui, bien sûr.
Ah oui, s'endormir, oui, c'est ça.
S'endormir, c'est pas de faire son parrain.
I'm always drawn back to that wrestling match. Ten thoughts in the ring of my mind, playing catch. Can't live for the noise in my head.
Ça a l'air quoi? Ah ben, on peut commencer sans lui, hein. C'est du Kouglof.
Ouais, c'est du Kouglof.
What is within you? What you bring forth will save me. But if you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth.
Tisane, toi tu veux une tisane Antoine?
Ouais, ouais.
Tiens, tisane.
It was Grace, stunned by the last light of the sun, swimming in a green sea as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life, of this beautiful life.
Un tract qui disait, je sais pas quoi, initiation au chant, Helmut Lips, à Châtenay-Malabry. Et j'y suis allée et j'ai eu un choc de voir un prof, donc c'était un Allemand, qui faisait travailler une voix. Cette relation entre le prof et la voix de l'élève en face, ça m'a énormément touchée. Et le fait qu'il la fasse progresser, enfin, tu vois, on montrait comment on faisait un cours de chant. À la suite de ce stage, j'ai commencé à prendre des cours et à faire des stages tous les ans. J'adorais ça parce que tu fais que ça pendant toute la journée. Tu as une espèce de ferveur, d'enthousiasme, c'est génial. Puis moi, je dormais tout le temps dans des espèces de vieilles baraques, de vieilles dames qui te louent une chambre. Et puis tu passes ta journée à travailler la voix, quoi, et parler que de ça. Et pour moi, la tuile totale des stages, c'est le dernier jour, on te dit, il faut faire une audition. Et on te prévient, ça sera 18h, là, 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 faut pas partir avant, machin. Et alors moi, à chaque fois, c'est la panique, je me dis, merde, il y a une audition. Le nombre de fois, je me disais, vite, vite, il faut que j'arrive au bout, quoi, ils vont se barber. La première fois que j'ai fait une audition, c'était dans une jolie église.
Et donc j'ai chanté C'est Florindo et Fedele. Et j'ai failli tomber dans les pommes. Quoi. L'idée de chanter devant un public, ça a été la terreur, panique totale. Le chant, il y a vraiment une dimension extraordinairement intime. Quand tu sors un son de ton propre corps, et puis il faut que tu écoutes ce que ta voix a sorti. Donc, il y a un tout petit décalage entre ce que tu sors de toi et ce que tu entends avec ton oreille.
C'était La Maison Latour, l'amour et la vie d'une femme. Avec Omer Corlet, Laure Dumont, Antoine Aignon, Marie-Suzanne Deloy, Anne-Christine Taylor, Chantal, Robinson et Bruno Latour. Les textes de Bruno Latour sont lus et interrogés par Zoé Bendiki, Yanaël Pleutener et Marie Wallard. Immense merci pour leur soutien à Talia Bachir, Anne-Françoise Benamou, Camille Dechesnay, Romane Couder, Cécile Cross, Marie Hennechard, Laura Jouve-Villard et Michel Tabé. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Manon Houssin. Communication, Aurélie Marsay. Un documentaire signé Antoine Couder, réalisé par Diffy Mariani. Expérience, Aurélie Charon, Inès Dupéron.